Bonjour à ceux que je n'aurais pas pu saluer. Et pour ce matin, je vais vous proposer une première lecture qui se trouvera dans l'Ancien Testament, qui va être un peu la lecture centrale du message, et qui nous parle de l'assemblée de Dieu dans le désert, cette assemblée qui avait été conduite par Moïse. Et vous verrez que par ce texte, on peut vraiment faire des parallèles par rapport à l'Église, hein. Des parallèles entre cette assemblée de Dieu et ce qu'est l'Église aujourd'hui. Alors, assemblée en hébreu se dit Kaal ou Eda. Et Kaal, en fait, veut dire assemblée, convocation, communauté. Ça nous vient du verbe assembler. Hein? Donc, voilà, ça vient du verbe assembler. Donc, ça a donné le mot assemblée. Et c'est bien ce qui fait la distinction des Israélites, c'est qu'ils étaient assemblés par Dieu. Donc, on pourrait dire, résumé, qu'il n'y a pas de peuple de Dieu sans rassemblement. Le peuple de Dieu est appelé dès ses origines à se rassembler afin de pouvoir être guidé par le Seigneur. Alors, si on pousse cette pensée à l'extrême, ça peut donner un travers du genre qu'on a connu de l'Église catholique, hein, qui dit « hors de l'Église, point de salut ». Alors, j'ai été chercher la citation en latin, ça fait quand même mieux, mais je n'ai pas appris le latin, donc désolé pour la prononciation. « Extra ecclesia nulla salus hein, ».« Extra ecclesia nulla salus ».« Hors de l'Église, point de salut ». Et c'est vrai qu'on est sauvé par Jésus-Christ, c'est pas parce qu'on s'assemble qu'on est sauvé. Mais quand même, dès le départ, le projet de Dieu, c'était d'assembler son peuple. Hein? Dire « je suis l'Église à moi tout seul », ça va pas. Hein? On peut pas dire ça. Là où deux ou trois, c'est déjà l'Église. Ouais, c'est vraiment... C'est l'embryon de l'Église, j'ai envie de dire. L'Église, c'est vraiment quand le peuple s'assemble, quand les fidèles du Seigneur se mettent ensemble pour chercher la présence. Ça, c'est l'Église, c'est l'Assemblée, c'est les gens qui se rassemblent devant l'Éternel. Et l'autre terme, « Eda », qu'on va retrouver en hébreu aussi pour « assembler », qui a la même signification, « rassembler, communauté, rassemblement, communauté, assemblée », et qui vient d'un autre terme à l'origine, qui vient du terme « témoignage ». Donc, quand Dieu nous assemble, c'est qu'il veut nous témoigner quelque chose. Et si Dieu nous a témoigné quelque chose, c'est qu'à notre tour, nous serons aussi des témoins. Amen. Hein? Et ça, c'était un peu le leitmotiv un temps de Jeunesse en Mission, on l'entendait souvent, peut-être un peu moins aujourd'hui, qui disait « connaître Dieu et le faire connaître hein? ». Il y a des gens qui ont des souvenirs. Voilà, hein, c'était un des leitmotifs de Jeunesse Soumission, connaître Dieu et le faire connaître. Eda, témoignage. Dieu nous témoigne quelque chose, et si Dieu nous témoigne quelque chose, ensuite on va être aussi les témoins de ce que Dieu a fait. Amen. Maintenant, comme nous avons pu voir un peu ce que ce terme « assemblée » peut dire, regardons donc un exemple de cette assemblée de Dieu dans le désert. Dans la Bible, et ce texte qui sera un petit peu central de le texte central de ce matin, se trouve dans Exode 17. Exode 17, les versets, je lirai les versets 8 à 16. Et puis vous verrez que le message de ce matin s'oriente alors sur l'Assemblée de Dieu, mais aussi s'oriente tout particulièrement sur l'ennemi de l'Assemblée de Dieu. Parce que quand le peuple s'assemble, eh ben, l'ennemi, il ne faut pas croire qu'il est là juste en train de dire « Oh ben zut, alors voilà qui s'assemble, je ne peux plus rien faire, je suis bloqué, je suis juste spectateur de ce rassemblement devant le Seigneur et je tremble ». Vous verrez qu'on va regarder un petit peu le côté en fait combat spirituel, parce qu'il y a un combat spirituel dès le moment où le peuple de Dieu s'assemble, commence aussi un combat spirituel. On prendra des exemples par rapport à ça, mais vous avez déjà commencé un petit peu ça à l'esprit. Alors je commence la lecture. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a des choses un peu prophétiques dans ce texte, ce n'était pas seulement pour l'époque de Moïse. Donc ici, nous sommes en face du premier récit d'une bataille que doit livrer le peuple de Dieu, l'Assemblée de Dieu. Peu de temps après avoir vu les événements juste avant, ils étaient sortis d'Israël, d'Égypte, ils avaient traversé la mer Rouge et ils s'étaient engagés dans le désert. Et on le sait, par la suite, ils vont être 40 ans à tourner dans ce désert sur une surface à peu près équivalente au territoire suisse. À peu près, je regardais sur la carte ce que ça pouvait correspondre, mais ils ne se sont pas promenés partout dans cet endroit. Ils étaient guidés par Dieu et ils ont été conduits en dehors des routes commerciales, d'ailleurs, parce qu'il y avait des routes commerciales dans ces endroits qui reliaient les grandes villes du Proche-Orient de l'époque. Vraiment, ces 40 ans dans le désert, coupés vraiment un peu du reste du monde, le peuple de Dieu a été coupé du reste du monde durant 40 ans. Et puis là, ils vont devoir livrer une première bataille, mais avant, ils ont quand même vu la puissance de Dieu à l'œuvre, parce qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été nourris par le Seigneur avec la manne et les cailles. Dieu a pourvu aussi à leurs besoins au niveau de l'eau, en conduisant dans des endroits où il y avait de l'eau, et si l'eau était polluée, il l'a rendue pure. Et s'il n'y en avait pas, Moïse avait frappé du rocher et l'eau était sortie du rocher. Toutes ces choses, Dieu avait déjà témoigné sa puissance. Comme le dit d'ailleurs, je le lis simplement ici, l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens 10, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Le même aliment, c'était quoi? C'était la manne et l'écaille. Et le même breuvage, c'était ce rocher qui était Jésus. Et c'est symbolique, bien sûr, mais ça montre que déjà le Christ était là, il veillait déjà sur son peuple, et qu'il y avait la grâce du Christ qui permettait à ce que ce peuple, qui des fois était quand même un peu rebelle contre le Seigneur, puisse avoir sa portion d'eau, même dans le désert. Donc, ils avaient vu l'œuvre du Seigneur, et maintenant, ils devaient entrer dans leur première bataille. Les Amalécites, il faut le savoir, ce peuple était qui? C'était des membres de leur famille, parce que le descendant des Amalécites n'était rien d'autre que Ésaü, le frère de Jacob. Et Ésaü, c'était un peu le type de l'homme qui vivait dans le monde, qui vivait avec le désir d'avoir tout de suite satisfaction des choses qui étaient sur son cœur. Et ça donnait cette descente des Amalécites. Et ce peuple a été souvent en bataille contre Israël. Et ça nous fait comprendre aussi des fois que l'ennemi, il peut prendre un habit familier pour venir nous combattre. Des fois, on peut penser, là, c'est pas l'œuvre des ténèbres. Là, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. C'est quelqu'un de notre famille, c'est quelqu'un qui nous est proche. Et puis, je vais pas trop partir dans cette direction, mais on peut penser à des réveils. Des fois, il y a des mouvements de réveil c'est un habit familier, ça ressemble à du christianisme. Ça évoque le nom de Jésus, ça évoque la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a certains réveils qui ne sont pas toujours du Seigneur. Parce qu'un véritable réveil amène la repentance, amène à ce que les gens soient touchés dans leur cœur et que ces gens ont envie d'une vie nouvelle où Jésus-Christ n'est pas une vie de compromis et une vie que de miracles et de grandes prophéties et que sais-je encore. Donc le diable, il vient des fois avec un habit, il peut venir des fois avec un habit familier devant nous, juste pour nous séduire. Et nous savons, nous, si nous sommes dans les derniers temps, Jésus nous a averti que dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de séduction, qu'on devait prendre garde à nous-mêmes. Alors, ces Amalécites, descendants d'Ésaü, les voici qui viennent combattre contre Israël. Et Moïse donne ses ordres. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et combat Amalek. » Ça, c'était pour la tactique de guerre. Il dit à Josué, « Va choisir des hommes et combat Amalek. » Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Il y a un dicton qui dit « La meilleure défense, c'est l'attaque hein, ». Peut-être vous l'avez déjà entendu. Et en effet, des fois, on doit être vigilant. Et des fois, on doit avoir une vie de prière pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. On doit être vigilant afin de ce que l'ennemi ne puisse pas entrer dans le camp et semer le trouble. Il y a un verset de Jacques 4, verset 7, je vous le lis aussi comme ça. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein, » vous le connaissez. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le verbe ici, « résister au diable », on pourrait aussi le traduire de cette manière, « opposez-vous au diable ». Cela sous-entend justement l'idée qu'on n'a pas laissé l'ennemi, notre ennemi, entrer dans notre camp. On se pose avant même que le diable entre, on se pose à lui. On lui dit non, ici c'est Jésus qui règne, ici c'est la limite, tu n'entres pas dans ce territoire appartient au Seigneur, et ce territoire Dieu me l'a donné en héritage. Amen. Donc, notre combat est bien spirituel. Et si on ne veut pas voir le diable nous attaquer à l'intérieur de notre propre église, nous devons nous engager dans un combat spirituel par la prière. Ainsi, le diable ne pourra pas venir mener la division et la destruction dans notre assemblée, et d'ailleurs de même pour nos vies de famille et nos vies personnelles. La tactique de bataille pour Moïse était d'aller à la rencontre de cet adversaire en dehors du camp. Mais il y avait aussi une stratégie spirituelle, et c'est cette stratégie spirituelle qui a donné la victoire aux Israélites. « Demain, dit Moïse, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Pourquoi ? En fait, pour prier, pour intercéder. Et puis au moment où la prière était suffisamment puissante, eh ben, on voit les Amalécites étaient vaincus, ils reculaient, et puis le peuple de Dieu gagnait des combats. Et au moment où la prière n'était pas suffisamment puissante, c'était exactement le mouvement inverse. C'était les Amalécites qui prenaient le dessus sur Israël. Et pour l'Église, c'est la même chose. Si on ne prie pas, si on n'est pas dans le combat spirituel pour l'Église, eh ben, on ne va pas avoir des victoires. C'est l'ennemi, au contraire, qui va prendre le dessus, qui va rentrer dans le camp et qui va semer la division. Par contre, si on prie, eh ben, on va avoir des victoires. Et puis, on va avoir des choses vraiment à la gloire du Seigneur. Et Dieu va pouvoir régner au milieu de son peuple. Qu'on le veuille ou non, on est dans un combat spirituel. Et je repensais ce matin encore, le début de l'histoire de l'Église, Jésus tout de suite, il enseigne, il y a, mes amis, il y a un combat spirituel. Tu es Pierre. Hein? Moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce à dire? On est bien dans un combat spirituel. Après, Jésus dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Une dimension spirituelle, hein? Vos prières sont puissantes. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Hein? Je te donne les clés du royaume. Une fois, j'avais prêché là-dessus, là, dans une église, puis j'avais dit, mais qu'as-tu fait de tes clés? Est-ce que tu te rappelles que tu as une clé là, qui a une autorité incroyable en Jésus-Christ, et que nous, en tant qu'Église, on est inévitablement dans un combat spirituel. Inévitablement. Quand Jésus a commencé l'enseignement sur l'Église, voilà, ça démarre déjà sur le combat. Désolé, c'est comme ça. Hein? On est dans ce combat-là. Si on veut s'impliquer dans une Église, inévitablement, au moment où on va commencer à servir, où on va commencer à s'impliquer, il va y avoir un combat. Parce que le diable, il ne veut pas voir que justement cette Église puisse s'assembler, que cette Église puisse recevoir le témoignage de Dieu et que cette Église puisse être témoin du Christ vivant aujourd'hui. Nous sommes donc bien dans un combat. Les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elles. Pourquoi ? Les portes du séjour de la mort, c'est le but du diable, c'est d'amener des âmes dans ce séjour-là. Le but du diable, s'il séduit les hommes, c'est pas pour leur faire vivre des choses incroyablement mauvaises, oui, bien sûr, mais son but final, c'est d'amener le maximum d'âmes dans le séjour des morts. Donc, tout le travail des puissances des ténèbres, c'est en vue de ce but-là. Mais nous sommes dans un combat, et en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Mais si on ne lit pas et si on ne délit pas, eh ben l'Église, elle ne va pas rentrer vraiment dans son appel et puis elle ne va pas avoir de croissance. Et au contraire, si on n'est pas dans le combat spirituel, on risque aussi de voir l'ennemi commencer à rentrer dans le camp et à semer la bataille au milieu de nous, au milieu de nos propres vies aussi et puis au milieu de nos familles. On voit dans ce texte de Exode 17 que Moïse a dû monter sur la montagne pour intercéder. Pourquoi ? C'était simplement pour qu'il puisse voir ce qui se passait sous ses yeux. Il pouvait ainsi regarder le champ de bataille. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous dira « Allez prier dans un endroit spécifique, Dieu doit vous montrer où vous devez mener votre combat, il faut monter sur le Cervin ou je ne sais pas sur quelle montagne. Hein, » Moi, je devrais donner des noms de montagne. Neuchâteloise, pardon, mais je ne suis pas Neuchâtelois. Alors, un nom de montagne ici, là, le Chasseron. Chasseral, oui, Chasseron, c'est sur le canton de Vaud. Le Chasseral. Hein, montons tous, on va tous prier sur le Chasseral, Dieu va nous donner la victoire, c'est là que le Seigneur va libérer son peuple et manifester sa puissance. Moi, je ne suis pas comme ça par rapport au combat spirituel. Je crois que si on a cet exemple-là par rapport à Moïse, c'est simplement pratique parce que Moïse, il pouvait voir ce qui se passait sur le champ de bataille. Donc, tout endroit est bon pour prier, pour lier ces esprits mauvais, ces esprits de séduction, ces esprits religieux, ces esprits de fausse prophétie, ces esprits de manipulation, ces esprits de mensonge, ces esprits d'immoralité, ces esprits etc., etc., etc. Dieu va nous donner les clés. Il nous les a déjà données, mais il va nous enseigner afin qu'on puisse entrer dans l'autorité que Jésus-Christ veut nous donner. Amen. Donc, il n'y a pas un endroit où on prie. Mais Moïse avait besoin de voir le champ de bataille. Et nous, on a besoin de savoir où est notre champ de bataille. Je vais lire dans 1 Pierre 5, qui nous donne une idée où se trouve notre champ de bataille. Parce que si on n'a pas conscience de ça, ben l'ennemi aura facilement le dessus sur nos vies. Alors, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. Ah, ça c'est aussi, c'est le verset que j'ai cité avant aussi. Hein. Opposez-vous à lui avec une foi ferme. Le diable, il est comme un lion rugissant. Mais c'est pas ça que je voulais. Alors c'est dans 2 Pierre. Je me suis trompé dans ma référence. Non, je ne l'ai plus. Zut. Comment ça se fait? Moi, je l'ai là noté. Je ne sais plus où c'est. Tac, tac. Je vous l'ai dit comme ça. Je n'ai plus la référence. Non, c'est pas ça. C'est « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Je ne me rappelle plus où est cette citation, je me suis trompé de ces 2 versets, mais je vous la relis. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Ici, on a une indication où se trouve le champ de bataille. On doit revêtir le casque de l'espérance du salut. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de porter ce casque-là? Et en fait, c'est un casque qui n'est pas facultatif, comme lorsqu'on fait du vélo. C'est un casque qui est obligatoire, comme lorsqu'on fait de la moto. Hein? En moto, le casque est obligatoire. Et parfois, les chrétiens, ils ne savent pas que ce casque est obligatoire. Et puis, ils le laissent dans l'armoire à la maison, au lieu de porter tous les jours. Parce que porter un casque, c'est quand même contraignant. C'est lourd, au bout d'un moment on a un peu mal à la nuque. Hein. Pour les dames, ça les décoiffe, même pour les messieurs, hein, des fois. Le casque, s'il fait chaud, on transpire dedans, c'est pas forcément génial. Et ce casque-là, ben, pour nous, c'est un peu la même chose. Ce casque du salut, c'est pas toujours super agréable parce que ça nous rappelle qu'on est dans un combat. Mais pourquoi on a besoin d'un casque? En fait, c'est pour protéger nos pensées. Parce que le champ de bataille, il se trouve ici. Il se trouve pas au-dessus du chasseral. Il se trouve dans nos pensées. Ça commence ici. Souvent l'ennemi, s'il ouvre une porte d'entrée, ça va commencer par nos pensées. Et ne croyez pas parce qu'on est chrétien qu'on serait à l'abri de ce combat-là. Ne croyez pas parce qu'on est en Jésus-Christ que le diable ne va plus chercher à nous influencer. Et ne croyez pas parce qu'on se rassemble en tant que peuple de Dieu que le diable ne peut pas chercher aussi à nous manipuler et à nous conduire dans des voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Alors ce casque sert à nous protéger, nous rappeler que nous sommes en Jésus-Christ et que nous sommes bien dans un combat. Et que si en tant que chrétien on n'est pas conscient de ces choses-là, alors l'ennemi aura facilité à mettre ses pensées, les pensées du diable en nous. Hein? C'est quelque chose de réel. Je ne suis pas en train de vous dire un truc, une belle fable de l'histoire du Moyen-Âge. Aujourd'hui, le diable, il travaille encore de la même manière. Et le chrétien qui n'est pas conscient de ça, ben, tout d'un coup, il y a une pensée qui va monter en lui, puis il va se dire « Ah, ben ça, c'est ma pensée. » Ou bien il va se dire « Ah, peut-être c'est la pensée du Seigneur. » Mais mes frères et sœurs, ça peut aussi être la pensée du diable. Et on doit discerner. Discerner afin de reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui n'est pas. Je vous avais dit au début, les Amalécites, c'était un peuple familier pour les Israéliens. Les Israélites, c'était un peuple de la même famille. Et le diable, il aime se revêtir aussi avec un bel habit blanc. Il va venir à nous, s'il le faut, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur. C'est pas toujours facile de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui vient de notre propre cœur et de ce qui est de l'ennemi. Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. En Timothée 6, verset 12. Combattre le bon combat de la foi, cela sous-entend aussi qu'il peut y avoir un mauvais combat de la foi, un faux combat de la foi. Et le diable raffole mettre les chrétiens dans ces faux combats. Paul pourra dire de lui-même, sautant sa fin proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Donc si Paul a pu discerner le bon combat, eh ben nous aussi, je crois, par la grâce du Seigneur, on pourra aussi discerner ce bon combat afin qu'on puisse avoir des victoires en Jésus-Christ et que le Seigneur nous donne sagesse et discernement, que nous puissions être sobres devant Dieu, marcher humblement, marcher avec sagesse, et non avec folie. Hein. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, moi je suis du milieu charismatique, donc je connais ce milieu-là, mais ils sont enflammés, emballés par des choses qui ne sont pas du tout du Saint-Esprit, mais ils sont convaincus. Et on a des cas, les gens, des fois, ils cassent carrément, hein. Ils font une décompensation, et ils se retrouvent à l'hôpital psychiatrique, vraiment, ils commencent à partir dans la schizophrénie. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont reçu n'est pas de Dieu et ils sont convaincus que c'est le Saint-Esprit. Ces gens-là qui vivent des fois des grandes expériences qui ne sont pas du Seigneur, ils sont complètement troublés. Puis ils vont prendre des choix dans leur vie. Nous, on va être là, spectateurs, puis on va dire, mais aïe, 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 il y a le mur là devant, puis elle est encore en train d'accélérer. Et on a beau leur parler, ils sont convaincus parce qu'ils ont peut-être reçu ça à l'église ou ils ont reçu ça dans leur temps de prière personnelle. Et ils foncent. Combat le bon combat. Et Paul qui pourra dire, proche de sa fin, j'ai combattu le bon combat. Amen. Donc je termine. Nous qui sommes du jour, hein, c'est le verset, je ne sais plus où il est, mais on peut le retrouver. Hein. Ah voilà. Alors je me suis trompé entre Pierre et 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Merci. Nous qui sommes du jour, soyons sobres et revêtons le casque de l'espérance du salut, habillés en plus de la cuirasse de la foi et de l'amour. Hein? Soyons sobres, ne nous laissons pas attirer par des choses grandioses, mais qui sont du diable. Ne soyons pas comme Ésaü à vouloir régner sur ce monde. Sortons hors du camp. Amen. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. La foi en Dieu, cette confiance que Dieu nous aime, cette confiance que ce salut il est accompli pour nous et que nous pouvons aujourd'hui être rendus participants au royaume du Seigneur. Et cette foi, cette cuirasse de foi et cette cuirasse d'amour, c'est aussi cette confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Dans l'assemblée, Dieu désire qu'on puisse être en confiance, frères et sœurs. C'est une cuirasse qui protégera l'Église. Et l'autre cuirasse, c'est l'amour. Qu'on puisse être dans un respect, dans un amour réciproque. Parce que Dieu, s'il nous a mis ensemble, ce n'est pas par hasard, hein? Il ne va pas se dire, ah oh non, mais voilà, oh non, non, oh non, 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 surtout vous ne rassemblez pas, non, 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 non. Hein? Ah non, encore celui-ci qui rentre dans l'église, oh là là, c'est la catastrophe. Hein? Non, le Seigneur, dès le début, il a voulu assembler les gens, mettre les gens ensemble, afin que nous puissions être témoins du Seigneur. Une cuirasse d'amour envers nos frères et nos sœurs au Christ. Une cuirasse de foi. C'est-à-dire une confiance mutuelle. Et ainsi, un jour, nous pourrons dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Alors moi, je vous invite à la prière, pas maintenant, hein, mais jour après jour, entrons dans ce combat, lions ces mauvais esprits qui cherchent à prendre le dessus sur nos vies, afin qu'on puisse marcher vraiment conduit par le Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des dames qui se réunissent ici le mardi, ben combattez, hein, vous avez reçu ces clés, combattez. Moi, j'entends des fois, on a peut-être un peu de la peine à exprimer ces choses-là, mais au nom de Jésus-Christ, nous lions ces esprits saints qui ne viennent pas de toi. On a reçu cette autorité, on doit le faire pour l'Église, on peut le faire avant nos rencontres aussi, on peut le faire quand on est au chemin sur l'Église, on lit ces mauvais esprits, on peut le faire pour nous-mêmes, pour nos situations de famille, professionnelles même, mais n'ayons pas peur. Le Seigneur veut nous faire entrer dans ce combat parce que la victoire, elle est en lui. Mais si on ne combat pas, eh ben c'est l'ennemi qui va venir nous combattre. Donc on n'a pas le choix, on est dans le combat. Alors on va s'opposer à lui, on va pas le laisser rentrer dans le camp. Et priez pour toutes les personnes qui s'impliquent dans l'Église. Priez pour le conseil, parce qu'il ne faut pas croire que moi, je n'ai pas de combat. Hein? Bien au contraire, priez pour chaque personne qui s'implique dans l'Église afin que Dieu puisse manifester encore sa puissance. Amen.